Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Cyril Linette, Julien Beneteau, Fred Weiss. Sachez qu'à 11h45, c'est votre moment, les auditeurs. Le 32-16, vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. Vous venez lui dire en face. On a parlé du désamour de l'équipe de France. On a parlé de la retraite de Raphaël Nadal, du Paris FC, d'autres sujets. Allez-y, vous nous appelez, un seul mot d'ordre, le 32-16, 11h30. C'est le débat caché, le fameux débat caché. Les GG ne savent rien, elles sont dans le noir. Et pourtant, elles vont devoir débattre, avoir un avis, tenir une position. Quel est le débat caché du jour? Votre sensation, Fred Weiss?
Le cyclo-cross ayant repris, je pense que tu as parlé d'Eli Isorbit, qui a marché sur le vélo de son concurrent. Est-ce qu'on serait prêt à tout pour gagner?
Sur son dérailleur, oui,
sur son dérailleur, il a été disqualifié évidemment, mais est-ce qu'on est prêt à tout?
Déjà, le cyclocross a commencé. Première information. Merci beaucoup, Fred Weiss. Pourquoi pas?
Il peut pas tout gagner. Il a gagné la contre-attaque. Il peut pas gagner
le débat caché. Parce qu'il y a rien à gagner là.
Ah oui, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça.
Pascal Duprat, le débat caché, c'est quoi?
J'ai pas beaucoup d'idées. Peut-être les 20 km. Aujourd'hui, 20 km, c'est ça?
Oui, les 20 km de Paris.
C'est peut-être de ça qu'on va parler. Ou alors de la délocalisation des matchs de sport professionnel. Hier, Bayonne et contre La Rochelle se jouait à Saint-Sébastien.
Exactement.
Peut-être que tu vas nous parler de cette utilité-là.
Et le Racing qui est obligé, avec la piscine construite à la U Arena, de se délocaliser. Très bonne idée, ça, Pascal. Bravo.
C'est pas ça. On fait ce qu'on peut.
Julien Bennett.
Je suis dans le noir total. Je vais aller sur un truc bateau, c'est lequel de dire, sur la Coupe de l'América, la plus vieille compétition du monde, qui a commencé hier entre Team New Zealand et les Britanniques d'Ineos.
Si mes souvenirs sont bons, on était samedi 11h30, donc hier, tu m'as déjà proposé la Coupe de l'América. Très bien. Tu veux vraiment qu'on parle de la Coupe de l'América? Cyril Linette.
Non, alors là, je savais pas qu'il fallait réfléchir à ça, mais j'ai aucune idée. Gasquet, on aurait pu, parce qu'on avait déjà fait un débat sur lui, à quel niveau le situe, comme il prend sa retraite le même jour que Nadal. Ou alors Barnier, les JO 2030, on baisse les crédits dans le sport, mais on accorde quand même les 500 millions de garanties pour les JO. Voilà, c'est quoi la position de la France par réel par rapport à 2030?
Très bonne proposition, bravo mes GG.
C'est pas ça.
Rien à voir. Dans les grandes gueules du sport, vous allez remporter aujourd'hui un séjour de vacances au domaine skiable Les Cibelles, au cœur des Alpes, avec Goélia, résidence et club de vacances pour 4 personnes, forfait inclus pour remporter ce séjour. Oui, dans les grandes gueules du sport, vous gagnez une semaine de vacances au ski. Vous envoyez maintenant ski au 732-16. Ski au 732-16. Le grand gagnant sera là dans 30 minutes, dans l'émission, en direct. Donc allez-y, ça n'arrive pas qu'aux autres. Andy Warhol a dit un jour, n'importe quelle publicité est une bonne publicité.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Tadej Pogacar, ça y est, c'est lancé à l'assaut. Peut-être une quatrième victoire dans le Tour de Lombardie.
Ouais, il y a que lui-même, hein, désormais, qui peut s'auto-battre, j'ai envie de dire, à 45 km de l'arrivée. Avec 47 secondes d'avance sur un trio composé de Remco Evenepoel, de Lennart Van Etveld et de Henrik Maas.
RMC, la flamme rouge.
Il va pouvoir prendre ce virage sur la droite à 90 degrés. Le lac de Com est derrière lui, la Viale Felice Cavalotti est à lui. Tadej Pogacar qui a écrasé une dernière fois de son impitoyable main de fer cette année 2024. Tadej Pogacar, 25e victoire de la saison, le épilogue d'une année absolument exceptionnelle.
Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord.
Oh, peut-être pas, on l'espère pas quand même, pas que le début pour Tadej Pogacar. Il est encore entré un peu plus dans l'histoire hier en remportant, vous l'avez entendu, son quatrième tour de Lombardie de suite, hein, du jamais vu depuis 50 ans, et la légende Faustocopie. Rendez-vous compte, c'est la 25e victoire de la saison pour Tadej Pogacar, le champion du monde slovène. A une nouvelle fois écœuré la concurrence, désormais au départ d'une course, on ne se demande plus qui va gagner, mais à combien de kilomètres de l'arrivée Pogacar va mettre une raclée lors des championnats du monde. C'était il y a 2 semaines, hein, il s'était fait la belle à 100 km de l'arrivée. Le week-end dernier, lors du Tour d'Émilie, c'était à 37 km de l'arrivée. Et hier, c'était à 48 km de l'arrivée. La musique qui fout les jetons. Et cette question: est-ce forcément une bonne pub pour le cyclisme? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Cyril Linette.
Oui.
Pascal Duprat.
Non.
Julien Beneteau.
Et non, pas forcément.
De oui, de non. Avant de débattre, on va retrouver à Côme, hein, notre spécialiste vélo, Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Bonjour les GG, bonjour à toutes et à tous.
C'est vrai que le vélo est un sport qui se joue à 150, et à la fin, c'est toujours Pogacar qui gagne.
Oui, en Lombardie, Tadej Pogacar a fait ce qu'il a voulu, quand il a voulu. Une attaque à 48 km de l'arrivée dans la montée du Sormano a suffi à étouffer la concurrence. Résultat, un 25e succès en 2024 pour conclure une saison absolument hors norme.
C'est fou, mais moi je suis juste content. Tout s'est bien passé depuis le début de la saison et je suis super content de finir l'année avec une victoire.
Derrière Pogacar, les adversaires ont semblé comme résignés. Deuxième hier avec 3 minutes 16 de retard, le Belge Remco Evenepoel n'a même pas essayé de prendre la roue du Slovène lors de son attaque, conscient de l'écart de niveau abyssal.
Non, c'est un peu sur la même ligne comme dans le Tour de France, j'ai dû prendre mon propre rythme. Donc maintenant dans l'hiver, c'est le cas d'essayer de travailler cela pour pouvoir le suivre plus longtemps et pour essayer de terminer devant lui aussi. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, il était assez loin devant moi, moi j'étais assez loin devant les autres. Donc c'est un peu le même résultat comme dans le Tour de France.
Sa saison terminée place désormais au repos pour Tadej Pogacar qui entamera sa préparation pour 2025 à partir de la mi-novembre.
Merci beaucoup Arnaud pour ces précisions et ces interviews, hein, venues d'Italie évidemment. Correspondant, enfin envoyé spécial sur place là-bas pour le Tour de Lombardie. Est-ce forcément une bonne pub pour le cyclisme? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est divisé dans le studio RMC. Je vais commencer avec un nom, Pascal Duprat.
J'adore le vélo, mais j'ai répondu non parce que ça m'inspire tout simplement des craintes. Donc voilà, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, et ils sont fidèles, donc ils vont rester. Il me semble que le vélo, la prédominance physique est importante. Parce que la dextérité, bon, je veux bien qu'on me dise qu'il est agile sur son vélo, mais bon, il ne fait pas dextère du pédalier gauche, ou enfin, il n'y a pas une technique particulière. Si ce n'est celle de savoir bien sûr se faufiler, mais surtout c'est physique. C'est-à-dire qu'il faut, pédaler plus vite que les autres. Or, il me semble, et ça m'interpelle, que Pogacar, il pédale vraiment trop plus vite que les autres. Parce que 3 minutes 16...
T'aimes pas les super athlètes, toi. T'aimes pas voir des choses
3
magnifiques.
Minutes 16.
Moi, c'est pour ça que j'aime le
3
sport.
Minutes 16 dans la vie, dans la vue à Evenepoel, ça fait 50 et quelques années que c'était pas arrivé. Un tel écart, tu les as cités tout à l'heure, championnat du monde, ils se promènent. En fait, ils se promènent tellement, ils s'est tellement promené cette saison... que moi, ça m'inspire des craintes. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas très bon, parce que ça va réveiller les vieux démons. Voilà mon avis.
Je suis gêné par ça. Honnêtement, je pensais pas que Pascal allait sur ce sujet-là. Oui, il y a toujours eu des suspicions sur le cyclisme, évidemment. Mais soit on dit on a le droit de faire du vélo, soit on dit on n'a pas le droit. Si on a le droit, il a la possibilité de ne rien faire et peut-être qu'il est à l'eau claire et que c'est merveilleux ce qu'il fait. Et dans ce cas-là, moi je vois un super athlète. Je vois quelqu'un qui enthousiasme les courses. Je vois un cannibale surtout, qui n'est jamais satisfait, qui veut gagner plus. Un Eddy Merckx, quelqu'un qui veut montrer à tout le monde que c'est le meilleur, qui part à n'importe quel moment. Honnêtement, une course de cyclisme pour un néophyte, je suis désolé, je vais me laver la bouche comme tu dis tout si bien, c'est chiant. Par contre, quand je regarde Poggi en train de faire une accélération folle comme ça, bah, je suis chaud, voir un super athlète, moi ça m'enthousiasme, ça me fait rêver et je n'ai pas envie d'avoir des suspicions, peut-être que à tort,
en fait,
mais je suis
Nadal
tellement
qui se tord de douleur et qui n'arrive pas à marcher sur un court de tennis, eh bien tu le critiques,
mais
et Pogacar qui n'a même pas une goutte de sueur, après 300 bornes, tu t'en enthousiasmes.
Pogacar voilà. Domine tout le monde, ça m'enthousiasme. Nadal quand il dominait tout le monde, ça m'enthousiasmait. Quand il a été moins bon, je trouvais qu'il aurait pu arrêter avant.
Bah, au bout d'un moment, c'est ennuyeux en plus, je trouve.
C'est pas vrai ce qu'on dit. Et alors, que jamais je vous entende dire que la Formule 1 est chiante quand il y a quelqu'un qui domine. Parce que c'est exactement
pareil.
J'ai
exactement le discours pour Verstappen.
C'est exactement
pareil. Sauf que c'est plus le cas, parce que justement, il y a une émulation.
N'oublions pas, c'est que là, on l'encense, etc. Mais que quand Nadal gagnait Roland-Garros trop facilement, chaque année, après année, après année, à un moment donné, le public s'est lassé et en a même été à soutenir Robin Söderling en 2009 pour qu'il batte Nadal. Donc, on parle de publicité pour le sport. C'est très juste ce que tu dis sur Pogacar. Qu'au début d'une course, le cycliste, ça peut être on attend. Et en fait, ça devient intéressant jusqu'à ce qu'il attaque. Et une fois qu'il a attaqué, mais c'est plus intéressant. Donc c'est plus une bonne publicité.
Au championnat du monde, il a attaqué à 100 km.
Mais oui, mais c'est terminé,
c'est
la course.
C'est monstrueux. C'est bien pire. Tu sens qu'il va pas pouvoir tenir.
Hier, j'ai écouté Arnaud Souk à midi, à 13h. Il a prédit ce qui allait se passer. Il a dit, voilà où je pense que Pogacar va attaquer. Il va y avoir le Como de je sais pas quoi.
Ouais, c'est pas bien dur.
T'as vu les images?
À 47 ou à 48 km de l'arrivée. Attends, pour moi, ça va être là la rampe de lancement de Pogacar et on le reverra plus.
C'est donc, exactement ce qui s'est passé.
Donc tu préfères qu'on attend les trois derniers kilomètres, qu'il se passe absolument rien, que ce soit
ouais,
une
étape, un plat,
du
on n'est pas là, on n'est pas là pour on n'est pas là pour débattre, savoir si c'est un grand champion, un grand, c'est fantastique. On est là pour savoir si c'est une bonne publicité pour le cyclisme.
Un grand champion, c'est par définition une bonne publicité pour le sport.
Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, le gros, il y a deux gros problèmes, c'est qu'il y a plus aucune rivalité, donc il y a juste un Vingegaard au sommet de sa forme,
sur le
sans pépin. Uniquement sur le tour qui peut suivre Pogacar, et encore. Et la deuxième chose, parce que c'est le cyclisme, et parce que c'est terrible, et que c'est comme ça, et que je reçois un Pascal, quand il y a une ultra-domination dans ce sport-là, forcément il y a une suspicion.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus intéressant de voir Vingegaard dans un petit train passer tout le monde, et que ça soit super chiant pendant tout le truc, plutôt qu'un mec qui a traîné comme
un animal. Non, mais le panache de Pogacar n'a rien à voir avec celui de Vingegaard. Je suis d'accord, mais je parle de Vingegaard,
qui permet
c'est
ça,
parce que du coup, il peut y avoir une rivalité. Et là, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus rien.
Ça peut revenir, la rivalité. Enfin bon, moi je suis troublé par ce que dit Pascal, parce que je sais que c'est un féru de vélo, donc le fait de revenir à nouveau sur le sujet, il y aura toujours cette suspicion, et c'est terrible pour le cyclisme. Mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec Fred, il n'y a plus de cyclisme, on ne regarde plus, on interdit ce sport, parce qu'en gros, le dopage serait indétectable. S'il y a un vrai travail qui est fait sur le dopage, Pogacar, il est fabuleux. Il est fabuleux. Alors, moi, je vais revenir sur mes enfants. Ils ont 11 ans, 12 ans, ils sont petits. À 6, 7 ans, ils regardaient le Tour de France et ils ne voyaient que Pogacar. Regardez la popularité de ce garçon. Il est extraordinaire. Il communique bien. Il est sain, en tout cas, dans son attitude par rapport au reste du peloton. Il a gagné quand il n'avait pas d'équipe. Il arrive à gagner quand il est au championnat du monde sans équipe. Il gagne maintenant qu'il a une grosse équipe. Et le sport s'est fait de grands champions, de qui on a parlé depuis 2 heures. De Jordan, on a parlé de Zidane, on a parlé de Nadal. Merckx a dit, il est plus fort que moi. De quoi peut-on se plaindre d'avoir dans un sport, je suis d'accord avec Fred, qui parfois est un peu illisible jusqu'à 3 km de l'arrivée, de quoi peut-on se plaindre que d'avoir un champion hors norme comme il est, avec ce panache, parce qu'en plus il prend le maillot dans le Tour de France. Moi j'ai connu des Indurain qui gagnaient le Tour de France sans jamais gagner d'étape à part les contre-la-montre. On a connu des tas de coureurs à moitié planqués. Lui il gagne une étape, il prend le maillot,
moi,
il
repart sur le terrain de son panache.
Panache fabuleux.
Mais je ne vais pas sur le terrain de son panache. Je voudrais simplement dire, tous les cyclistes professionnels mondiaux s'entraînent de manière conséquente aujourd'hui, s'alimentent de manière conséquente. Ils sont tous fit comme c'est pas permis.
Oui, parce que toi, t'as un doux fondamental maintenant.
Mais, que même si mon sport est loin, même s'il est important au niveau énergétique, mais il est loin de celui-ci, puisqu'il répond à d'autres valeurs, à d'autres talents, le talent du toucher de balle, par exemple, pour les footballeurs. Mais moi, ça m'interpelle, parce qu'il n'y a que la notion physique, ou principalement que la notion physique à maîtriser. Or, je pense que toutes les équipes mondiales, et notamment les françaises, maîtrisent la préparation des cyclistes français. Comment se fait-il qu'ils mettent 3 minutes 16 à Evenepoel ? Peut-être que parce que c'est la dernière course de la saison. Il y a peut-être des états de fatigue. Mais si tu fais sur toute la saison, Tour de France, il n'y avait pas de débat.
Écoutez,
tu savais qu'il allait gagner.
Exact. Non, mais on parle de la publicité pour cyclisme. L'ultra-domination dans un sport, à un moment donné, elle emmerde les gens.
Mais ça fait pas 10 ans, Julien. Si ça dure 10 ans, l'année prochaine, ça sera peut-être différent.
Vous les regardez, les courses? Vous les regardez, les courses? À la télé? Vous écoutez les commentateurs?
Bien sûr.
Ah ouais? Et dès qu'il
attaque. J'ai même entendu, il a une moto.
Non. Et là, dès qu'il attaque, qu'est-ce qui se passe?
Pantani dominait tout. Armstrong qui dominait tout.
Les commentateurs. Les commentateurs et les consultants, ils font, ah, ça y est, Poggi attaque, hop, on le reverra plus. Et là, ils disent, bon, mais il a 1:30 d'avance. Bon, mais il a 2 minutes d'avance. Bon, il a 3 minutes. Ils sont désabusés. Et à la fin.
Mais qu'est-ce qui se passait avant?
Avant
3 km de l'arrivée, il se passait rien.
À l'avant, ils sont admiratifs du panache et de l'attaque. Et après, une fois que l'écart est fait, pendant 1h15, c'est un.
Moi, pendant le Tour de France, ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde disait, mais il a plus besoin de gagner, il va être tranquille, il va se planquer. Sauf qu'il l'a pas fait.
Mais ouais,
c'est ça qui est génial. C'est qu'il relance l'intérêt sans arrêt. C'est qu'il va gagner l'étape alors qu'il en a pas besoin.
Il est
parce
génial.
Que c'est un cannibale et c'est magnifique à regarder.
Merckx a dit, il est plus fort que moi. Oui. Eddie Merckx.
Ça, ce côté-là, ok, cannibale, je le reconnais, il y a pas de souci. Le seul truc, c'est l'ultra-domination qu'il a, parce qu'il est peut-être plus fort, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être, voilà. Le problème, qui n'est pas de rivalité, moi, c'est ça, je pense que, attention, ça peut perdre un intérêt. Et je me souviens qu'on avait fait des débats sur le championnat de France, je passe du coq à l'âne évidemment, mais exprès, avec Cyril, qui nous disait attention, le PSG, sinon notre championnat va mourir, ouais, le PSG doit avoir une concurrence.
Mais ça fait pas 10 ans, Pogacar, là, et puis on est sur un sport individuel, on est sur des. Malgré tout ce qu'on retient de nos années à suivre le sport, c'est les grands champions. Il faut pas que ça dure 10 ans, mais quand on a un champion de cette dimension-là, il faut en profiter, je pense, qui en plus a une attitude de coureur qui est toujours vers l'offensive, donc qui n'est pas je vais gagner le Tour de France.
Sur il a gagné le Tour de France, là, il avait perdu les deux fois précédentes.
Mais exactement, quand même, il a perdu les deux précédentes.
Faut-il, est-ce que vous arrivez, et là je vais poser la question à Pascal qui est un amoureux du vélo, est-ce que tu arrives à te réjouir quand tu vois, avec les doutes que ça peut entourer d'ailleurs
Pogacar. Il a le doute, donc c'est mort.
Il y a répondu hier à ses doutes, je vous fais écouter dans quelques instants, mais Jean-Marc veut absolument participer à ce débat, en plus c'est un prénom composé très beau. Jean-Marc, bonjour. Jean-Marc, bonjour. Il s'est raccroché. Il a dit, ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'on m'accueille. Bonjour, Jean-Marc. Ok. Bon, on embrasse Jean-Marc. Je le salue en tant que prénom composé. C'est pas facile tous les jours, je peux vous le dire. Écoutons justement Tadej Pogacar. Hier, il répondait justement à l'interrogation de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui parlait dans une interview cette semaine où il disait, bah oui, la question sur les doutes de Pogacar, bah, elle n'est pas illégitime. Pogacar a répondu.
Le cyclisme est un sport dans lequel les gens ont fait par le passé tout ce qu'ils pouvaient pour être les meilleurs possibles. Ils ont risqué leur vie et on l'ignore, mais beaucoup sont aujourd'hui sans doute malades à cause de ce qu'ils faisaient dans le passé à leur corps. Aujourd'hui, il n'y a aucune confiance. On espère qu'un jour, les gens recommenceront à y croire. Le vainqueur est toujours suspecté d'être un tricheur, mais peut-être que les gens oublieront le passé et ce que des gars comme Armstrong ont fait. Le cyclisme est un sport suffisamment dangereux pour mettre sa santé en danger. Si on veut risquer notre santé et notre vie pour des années de carrière et souffrir le reste de notre vie, c'est stupide. Mais il y a toujours des gens qui sont jaloux et suspicieux et on ne peut rien faire contre ça.
Évidemment, Pogacar ciblait Pascal Dupraz. Jean-Marc, donc au 32-16, on l'a retrouvé. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour, j'avais pas raccroché, il y avait un petit problème. Je suis d'accord avec... bonjour les juges, je suis d'accord avec Pascal. Physiologiquement, il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont pas possibles. Que Pogacar fasse du bien au niveau du spectacle, au niveau que des attaques, ça c'est super. C'est bien, c'est quelqu'un qui a du panache, qui pourrait gagner en faisant moins. Mais par contre, de penser, vous savez, Coluche, il disait pour qu'il ne soit pas dopé pour arriver le 21 juillet, qu'il parte le 1er janvier. Bon, il exagère un peu, Coluche, mais physiologiquement, c'est pas possible. Vous qui êtes sportif, vous connaissez la VO2 Max.
Oui, très bien.
La VO2 Max, c'est la PMA par rapport au poids. Donc regardez ce que fait Pogacar en pesant 65 kilos avec les puissances qu'il développe à plus de 500 watts pendant un col, physiologiquement, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas que lui qui est dans ce cas-là. Même le 8e, le 9e ou le 10e du Tour de France, ce n'est pas possible, si vous voulez. Donc après, c'est du spectacle, c'est un gros spectacle, c'est beau. Mais après, qu'on pense, pour moi, Pogacar aujourd'hui, il en fait un peu trop, mais c'est sûr que quand on a la facilité comme il a de gagner, c'est difficile de ralentir. C'est difficile dans une bagnole de ralentir.
Est-ce qu'on dirait la même chose s'il était français?
Je pose la question. Non, mais moi je suis pas du tout chauvin. J'aime la France, mais je suis pas du tout chauvin. Honnêtement, c'est un beau spectacle. Moi j'adore Pogacar parce que c'est un mec, c'est un teigneux, c'est un puncher, c'est un mec qui anime les courses, qui pourrait se contenter de rester. Ça, de ce côté-là, il y a pas de problème. Mais par contre, après, le côté suspicieux, on est obligé de l'avoir. Et puis même si vous connaissez, regardez la VO2 Max. Regardez, il a mis 3 minutes à Armstrong sur Saint-Lary, sur le col de Saint-Lary. 3 minutes sur 28 minutes. D'accord.
Oui, mais on te répondra que c'était pas le même matériel qu'il y a 20 ans. Que...
Non,
ça pour le coup, c'est pas le même matériel. Hein.
Non, mais attendez, moi je fais beaucoup de vélo. Armstrong, c'était pas 1910. D'accord. C'était les gens sont entraînés, comme dit Pascal, les gens aujourd'hui sont tous entraînés pareil. Alors bien sûr, il y en a toujours des meilleurs que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir une bonne génétique. J'avais 82 de VO2 max. C'est énorme, hein, 82 de VO2 max.
Tu l'aimes bien, Max, toi, non?
Comment?
Non, vas-y, je suis
bien. Un gars, il est libre, surtout.
Il est libre, Max. Il y en a qui vont mieux voler. Non, mais je peux vous assurer, j'ai rien contre attention pour Gazard. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Ça donne du plaisir, tout ça. Mais après, il faut être sérieux. Si on parle sport, si on parle, ils sont pas à l'eau minérale.
Après, c'est ton avis, Jean-Marc, et on le respecte. Évidemment, il y a toujours des doutes. T'arrives quand même à prendre du plaisir, toi qui adore le vélo, Pascal, ou ça devient dur, en fait?
Prendre marque,
juste rapidement.
Mais en fait, c'est pas la jalousie qui me fait parler. Je voudrais pas être à leur place. Mais à force, comme tu sais déjà le résultat à l'avance,
tu perds la passion.
Bah, tu perds la passion, oui.
Ok, dans quelques instants, il y a le débat caché. Sachez qu'à partir de 13h, c'est votre grand rendez-vous sur RMC. C'est Stephen Brunch avec Stephen Brun. Salut Stephen.
Salut JC, salut tout le monde. Ça va?
Vous savez, comme tous les dimanches, tout va bien, mon cher Stephen. Tu viens nous vendre le programme, nous le proposer.
Ouais, et je pense qu'on va garder Jean-Marc parce qu'on fait un débat sur Nadal. Donc Jean-Marc reviendra nous appeler pour sur Raphaël Nadal. Non, mais bon, si on va parler tennis, on va recevoir Olivier Mutis, qui est le dernier Français à avoir battu Raphaël Nadal.
Ça y est, il parle.
Finalement, il parle. C'est... Et il est soulagé que Nadal prenne
la retraite, puisqu'il
restera dans le livre des records. Et puis, on terminera par du basket, forcément, le meilleur sport au monde. On va recevoir Gershon Yabusele en direct de Philadelphie à une semaine des grands débuts de la NBA. Il viendra nous raconter sa transition, équipe de France, Jeux Olympiques, Real Madrid, NBA, Joel Embiid, tout. Vous saurez tout.
RMC, la radio officielle du basket.
Exactement, Jean-Christophe.
Oui, et parfois des débats cachés, sait-on jamais, c'est dans quelques instants. Merci beaucoup, Stephen Brun.
À tout à l'heure.
Avec un magnifique programme, Stephen Brunch, avec Benoît Boutron. Et donc, Stephen Brun, et puis il a aussi battu Raphaël Nadal. C'était sur dur, c'était à Lyon, c'était pas sur terre battue.
C'était sur moquette.
C'était sur moquette.
Eh oui.
Ça s'appelle. Ils disent moquette sur internet. C'était sur Taraflex.
Ah oui. Et c'était.
Si tous les toits du Grand Chelem étaient sur Taraflex,
sur quoi? Sur Taraflex.
C'était un choix d'un clou.
Oui, évidemment.
Il est content. Voilà. Allez.
Il a bon fait Nadal un peu. 11h28, le débat clashé dans quelques instants.
Il a mis deux sous dans un vis sous un préau, il parle.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, toujours avec Pascal Dupraz, Cyril Linette, Julien Beneteau, Fred Weiss. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule, vous venez lui dire en face au 32-16. Donc n'hésitez pas à appeler et venez discuter des sujets que nous avons faits aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. C'est l'heure de l'alerte. Les grandes gueules fêtent leurs 20 ans cette semaine. C'est le moment de vous inscrire en envoyant GG au 732-16. GG au 732-16. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. N'écoutez pas Denis Charvet. Julien, comment il écrivait GG hier, Denis?
G-E-G-E.
Non, évidemment, c'est que deux lettres. GG pour les 20 ans des grandes gueules. À partir de maintenant, 11h33, vous avez jusqu'à 11h38 pour remporter 5000 euros. Bonne chance à tous. C'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. C'est sur l'émotion, c'est sur l'instant, c'est sur l'instinct. Le débat caché du jour. C'est ça.
C'est sûr que, en termes de statistiques...
C'est le départ du pont. Attention, et c'est... Et c'est d'Antoine Dupont. Incroyable. 48ème minute. Attention, 4 minutes de jeu après son entrée.
Capozzo qui revient à l'intérieur pour qui? Pour Antoine Dupont.
Incroyable.
Évidemment, le deuxième essai.
Capozzo qui met un coup de pied à suivre. Qui est là?
Qui c'est qui
va récupérer?
Qui c'est qui
là? Qui va marquer? Qui va marquer? Qui va marquer? Le triplé. Antoine Dupont. Mais c'est fou, c'est pas possible. Il n'est là que depuis quelques minutes. Il a mis un triplé.
Eh oui, moment exceptionnel hier sur RMC avec ce triplé d'Antoine Dupont. Alors après, Dupont à 7, Dupont à Los Angeles, Dupont qui s'est fait au football américain, Dupont qui fait du Airbnb. Voici Dupont qui détruit Clermont. C'est ce qu'on appelle un retour fracassant. 3 mois après son dernier match en top 14, le champion olympique était sur le banc. Il est entré et vous l'avez entendu, il a réalisé un triplé inouï. En 9 minutes. Mais le débat, c'est un petit pas de côté que nous allons faire. Parce que c'est enfin une bonne raison de s'enthousiasmer avec le rugby français, avec le 15 de France. Enfin une bonne raison de retrouver les Bleus dans un mois pour la tournée d'automne après un été noir. Avec son aura, Antoine Dupont peut-il faire oublier les affaires? C'est notre débat. Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Pascal Dupraz.
Non.
Julien Beneteau.
Oui.
Cyril Linette.
Oui.
Pascal, pourquoi non? Tu commences.
Mais parce que l'été a été terrible pour le rugby français et ce serait, à mon sens, pardon les gars, mais oublier trop vite ce qui s'est passé. Donc non, il y a notamment la mort d'un gamin Et il y a des choses incroyables qui se sont passées pendant cet été-là. Et même si Dupont est un extraterrestre, même si ça va nous faire penser à autre chose concernant le rugby, qu'à cet été noir, il est toujours là. Il va falloir que les instances elles fassent en sorte que ça ne se passe plus, surtout.
Et je vous pose cette question parce qu'on sait que dans un mois, on va retrouver pour la première fois Fabien Galthié, qu'il va être évidemment sommé à un moment donné de répondre sur cet été noir, lui qui a eu une communication assez légère, hein, où il a été plutôt absent, et c'est vrai qu'on avait déjà parlé dans cette émission de ce silence. Et puis là, Antoine Dupont, peut-être que pendant un mois, il va s'accaparer justement l'image du rugby et cette façon aussi de retrouver notre équipe de France. C'est aussi pour ça qu'on vous pose cette question, Julien.
Il va pas s'accaparer l'image du rugby parce que il est pas comme ça, Dupont. Il va mettre le collectif avant tout, etc. Là où je sur les affaires, je mets un bémol. Je pense que Jégou Radou, ça va le faire oublier. Que Dupont soit de nouveau là, le capitaine du 15 de France, il va y avoir des performances sur le terrain, on va reparler du sportif, etc. La mort du jeune international moins de 18 ans, là oui, effectivement, on ne peut pas oublier ça. Mais je pense que effectivement, la première conférence de presse de Galthié va être sur cet été, là-dessus. Après, il va vouloir vite recentrer les débats sur les trois matchs du test de novembre qui vont se passer. Et je pense qu'avec Dupont, en tant que capitaine exemplaire en dehors sur le terrain, mais ça va.
Donc Dupont, ça va le servir.
Ça va servir
dans sa communication.
Bien sûr, évidemment.
Ça dépend de qui on parle. Si on parle des médias, bien sûr qu'ils vont aller chercher Fabien Galthié sur les sujets de cet été. Si on parle de l'élection à la fédération de rugby qui s'annonce quand même assez incertaine, qui est tendue, bien sûr que ces sujets dramatiques, on pourrait aussi parler de Jaminet quand même, hein, et de ses déclarations, vont revenir en haut des sujets. Si on parle de l'opinion publique, je l'ai toujours dit, je le continuerai de le penser, le rugby est indestructible. Vous avez des dîners chez vous, des gens vous parlent de ces affaires-là. On vous parle de Mbappé à Stockholm comme s'il avait effectivement
même que
comme
là,
s'il avait tué Pierre Hébert.
Ça franchit un cap
non,
quand même.
Moi je crois pas. Je pense
ça fait l'information tout l'été.
Alors c'est pas très grave.
Non, le rugby
par rapport à l'image, mais
par rapport aux partenaires,
ce n'était pas que dans les médias de sport.
Par rapport aux partenaires du rugby, par rapport à la Vox Populi, par rapport aux audiences du rugby, par rapport au dîner en ville, je ne crois pas du tout. Je pense que ça va reprendre son cours normal, comme toujours pour le rugby. D'ailleurs, c'est la chance que le rugby a. Et voilà, ça et c'est parfois une limite parce que ça leur empêche.
Est-ce que tu penses que c'est vraiment empêche. Toujours une chance parce
c'est
que tu ne peux pas avancer
c'est les deux.
Hein.
C'est les deux. C'est les deux.
Mais en cela, c'est juste comparable au cours de la vie. La vie, elle est faite ainsi, tu oublies les choses. Donc le rugby n'échappe pas à la règle. Mais malgré tout.
Tout est monté en épingle dans la société aujourd'hui. Le rugby,
c'est un sport exceptionnel. J'adore ce sport-là, mais cet été. Ça a dû être dur à vivre pour eux.
C'est parce que toi, tu l'aimes vraiment. Et quand on l'aime vraiment, on prend pas la parole.
Je pense que ceux qui aiment le rugby, ceux qui viennent voir l'équipe de France au Stade de France pendant le tournoi Destination, sont de vrais amateurs de rugby, encore plus que moi. Ils sont touchés dans leur chair, à mon avis, cette fois-ci.
Moi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a des choses effectivement qui ont été monstrueuses et il faut pas oublier sur
ce sera drôle.
Mais qu'on mette de côté le drame avec le jeune Nargissi parce que là moi je parle du 15 de France et le 15 de France ça concerne Melvin Jaminet et ça concerne
Orado
et Jégou.
Dupont c'est un saint. J'ai l'impression qu'on a envie qu'il la pose les mains sur nous parce qu'il est fantastique parce qu'avec l'équipe de France à 7 il a une médaille olympique tout ce qui fait
le
France
en or. C'est pour ça que je pose la question.
Mais c'est pour ça que je te réponds. Ouais. Pour moi, quand t'as Dupont dans ton équipe, tu oublies tout. Encore une fois, je vais laver ma bouche, désolé. Hein. Toutes les saloperies qui ont pu être faites ou dites, ce n'est rien en comparaison avec l'aura de Dupont. Dupont blanchit tout le monde, nettoie tout le monde. C'est le gendre idéal. C'est le mec qu'on a envie d'avoir dans son équipe. C'est le mec qui, dès qu'il touche quelque chose, ça devient de l'or. Pour moi, tu oublies tout avec Dupont.
Par rapport à ta question, donc je vais modifier ma réponse. Si tu me dis que la mort du jeune international, il faut la mettre de côté parce que tu voulais nous parler du 15 de France, uniquement du 15 de France. Alors à ce moment-là, je te dis que Dupont, il va faire en sorte de laver les affronts, ça c'est sûr.
Ok.
Alors je me rallie à la cause de mes collègues.
Ok, je vais quand même être contre vous, alors non pas du tout. Julien Beneteau.
J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je pense que le rassemblement va arriver, il va y avoir une énorme mise au point. Déjà, ça a été fait par le président actuel et par Jean-Marc Lhermey. Il y aura des règles sur l'avant-match.
Oui, mais est-ce que Dupont, si on l'affiche comme ça, c'est la garantie quoi.
Non,
c'est la garantie.
Lui,
ça a changé.
Non, mais c'est pas que ça a changé.
C'est Joker. J'ai Joker Dupont et ça passe.
On va voir. Est-ce que
cet été, Baptiste Serin était capitaine. Il a dit, les gars, on sort, etc. Mais après, on rentre. Et on rentre. Et il y en a qui sont quand même ressortis derrière. Bon. Je pense que Dupont, il va leur dire une fois. Et s'il y a encore des écarts, qu'on saura peut-être même pas. Alors, ça sera terminé.
Attends, parce qu'il y a un débat. Moi, je voudrais ajouter quelque chose.
Le capitana. Oui. Il doit retrouver.
J'allais le dire.
Il doit se lever.
On oublie. C'est pour ça que Dupont, c'est un extraterrestre sur le terrain, mais aussi en dehors.
Bien sûr.
Parce que c'est l'image du gendre idéal. Mais malgré tout, il a laissé tomber ses collègues le dernier tournoi des Six Nations. Ouais. Pour se préparer pour les Jeux Olympiques à 7. Donc, tu crois qu'il va dire à tous ses potes? Sûrement. Tellement il est meilleur que les autres et tellement il est bon. Parce qu'il a l'air bon. Moi, j'écoute le président du Stade Toulousain quand il parle d'Antoine Dupont, franchement, mais il prononce des mots, ça ne peut être que vrai ce qu'il dit. Ouais. C'est un super gamin.
Je pense qu'ils avaient préparé l'absence de Dupont, ils l'ont géré.
Oui, mais ça, on va pas y revenir. Moi,
je suis pas d'accord avec mes collègues. Moi, je pense que son aura aux Jeux Olympiques. Alors oui, il les a abandonnés pour le tournoi destination. Ok. Sauf que son aura aux Jeux Olympiques a gagné.
Bien sûr.
Tellement.
Mais oui, il a gagné.
Mais bien sûr. C'est capital pour le rugby, finalement, qu'il les fasse.
Bien sûr. Et il a gagné.
Donc, il est renforcé pour reprendre le brassard.
Ah oui.
Ah oui.
Ah, mais oui. Il y a pas.
Comptez sur moi, il y aura un débat dans les prochaines semaines. C'est dans un mois la tournée.
Vous prenez pas de mon débat pour l'équipe de France de foot et vous voulez que je vous parle du brassard de l'équipe
France. Typiquement, cette émission pour toi, quand tu auras ce débat, je sais que tu seras présent dans cette émission. Mon cher Pascal, mais phénomène Antoine Dupont, qui rentre hier. On n'était pas sûr d'en parler, on ne savait pas s'il allait jouer ou que quelques minutes, et en 9 minutes, il réalise un triplé. On voulait vous faire écouter cet extrait, c'était hier. Donc, sur RMC, restez bien avec nous. 11h42, la dernière partie des grandes gueules du sport, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face et il y en a au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h45, toujours avec Julien Beneteau, Cyril Linette, Pascal Duprat et Fred Weiss pour la dernière partie des grandes gueules du sport. Et nous accueillons tout d'abord un grand gagnant. Il s'appelle Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Jean-Christophe, bonjour à tout le monde.
Est-ce que tu sais pourquoi nous t'appelons, mon cher Eric?
J'espère en tout cas avoir gagné le voyage au ski, mais il faut peut-être répondre à une petite question.
Et comme d'habitude, tu le sais, c'est une émission impitoyable, il faut répondre à une question. Attention, la question maintenant pour peut-être partir au ski. Quel est le dernier club professionnel de Pascal Duprat?
Je sais plus.
C'est une bonne réponse. Tu pars au ski. Bravo, Eric. Évidemment, c'est totalement fake.
Génial.
Tu pars au ski, quoi qu'il arrive. C'était lequel, mon cher Pascal?
En tant que joueur?
Non, en tant qu'entraîneur.
Dijon.
Dijon, exactement.
Ah,
et plus récemment, dans une série télé. Voilà.
Fontenay-le-Vicomte.
C'était ça aussi. Eric, tu vas partir avec 4 personnes une semaine au ski. C'est incroyable, avec les forfaits, avec résidence et clubs de vacances. Tu pars avec qui?
Ah, je vais partir avec ma chérie, Laure. Et puis après, il va falloir trouver... j'ai 4 enfants, donc va falloir choisir.
Aïe. Et comment on fait pour choisir, justement, aiguille-moi, quand on a 4 enfants?
On ne sait pas. Ça va être sur leur disponibilité, sur leur...
On choisit le préféré.
Voilà, quoi. Bon, oui, moi, je me demande, est-ce qu'on a des préférés quand on en a 4?
Pas du tout.
Très bien. Bon, en tout cas, Eric, on est très heureux pour toi. Bravo, grâce aux grandes gueules du sport, tu vas partir une semaine au ski. On est très heureux et merci de ta fidélité. Elle est récompensée aussi dans les grandes gueules du sport. Allez, tout de suite, on accueille les auditeurs.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec les Cibel. Domaine inoubliable, accessible à tous pour faire le plein d'émotions et d'expériences mémorables.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous?
Le 32-16 pour participer à cette émission et venir affronter une GG. Thierry, tout d'abord au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Alors Thierry, on affronte qui aujourd'hui?
Je crois que je vais affronter Fred, j'en suis sûr même.
Fred Weiss, sur quel débat? Juste l'intitulé, juste le nom?
Sur le débat du départ à la retraite de Raphaël Nadal.
A-t-il raté sa fin de carrière? C'était oui. Exactement. Pour Fred Weiss. Voici ce qu'il disait tout à l'heure.
Le constat peut être un peu difficile, hein, mais quand on est une superstar, une légende, un joueur aussi monstrueux, on s'attend à ce qu'il termine en apothéose. Alors, beaucoup de mes collègues ici me diront que peu ont réussi à partir au bon moment. Il n'a pas réussi, Raphaël Nadal. Et c'est pas parce que les autres n'ont pas réussi qu'il n'aurait pas dû le faire, lui.
Thierry, Fred est à toi.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fred. Bon. Je voulais aussi remercier Pascal Duprat pour son soutien à Raphaël Nadal, déjà. Je suis pas toujours d'accord avec Pascal, mais là, pour le coup, on est dans le bon camp. Alors Fred, je dis on ne touche pas à la légende Nadal. Il est intouchable déjà. C'est voilà, c'est radical et il n'y a pas de débat. Moi, je pars du principe que, alors pour vous expliquer, mon métier, moi, je suis formateur indépendant et je forme des travailleurs indépendants qui sont des commerciaux. Et j'ai créé un module de formation qui s'appelle « Le commercial est un sportif de haut niveau ». Je me sers de la légende Raphaël Nadal sur l'état d'esprit, la préparation, la mentalité, l'abnégation, etc., etc. Toutes les qualités que je mets en parallèle avec mes modules de formation. Et moi, je pense que Raphaël Nadal a géré, en fait, son départ à la retraite un petit peu. Pour moi, il ne l'a pas géré. En fait, il ne partait pas à la retraite dans sa tête. Il a géré comme ses matchs. Raphaël Nadal, on a vu des matchs où il était à la rue. Il perdait un set, on se disait bah, qu'est-ce qu'il a, il est foutu, etc. Et en fait, il revenait dans le match et il gagnait le match à la fin. Et je pense qu'il a géré sa fin de carrière de la même façon. Il a été sincère quand il a parlé donc de vouloir continuer, de vouloir voir si ça irait mieux, de se remettre en forme, etc. Il était sincère.
Ok, la sincérité.
Il était dans un match.
Est-ce que tu peux répondre là-dessus sur la sincérité, Fred ?
Clairement, il a été sincère, sauf qu'il s'est menti à lui-même. Et c'est ce que font la plupart des sportifs de haut niveau. C'est qu'on croit qu'on est au-dessus, qu'on a un ego supérieur aux autres et qu'on peut revenir à n'importe quel moment. Il n'a pas réussi et je suis désolé. Étant fan, moi aussi, de Nadal, et je peux comprendre absolument qu'on aime et qu'on n'ait pas envie de l'écorner, il y a toujours débat. Et ensuite, pour moi, quand il termine comme ça aux Jeux Olympiques, alors que tu vois que Djoko est obligé de freiner un petit peu pour le laisser prendre quelques points un petit peu, je trouve ça très triste et je pense qu'il méritait pas ça. Je pense qu'il méritait une sortie beaucoup plus incroyable, triomphale que ce genre de sortie. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est raté.
Et c'est pour ça, c'est en ça que c'est raté. Mais encore une fois, c'est pas le seul, c'est pas le premier. Ça arrivera à d'autres. C'est très difficile d'arrêter au bon moment. Et je suis très content que tu sois formateur et que tu parles des sportifs de haut niveau parce qu'effectivement, cette mentalité est importante. Mais parfois, ça nous empêche d'arrêter au bon moment.
Il est malin, il arrive à se mettre Thierry dans la poche. Merci Thierry d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt sur RMC. Kevin nous appelle également. Bonjour Kevin.
Salut JC. Salut Grande Gueule.
Ah, Kevin, un habitué de cette émission. Je reconnais la voix. Kevin, on s'attaque à qui aujourd'hui ?
Eh bien, à Pascal et à Julien sur le sujet Pogacar.
Ok. Alors pour eux, c'est une mauvaise publicité pour le cyclisme. Voici ce que disait notamment Julien Benneteau. C'est très juste ce que tu dis sur Pogacar, qu'au début d'une course, le cycliste, ça peut être on attend. Et en fait, ça devient intéressant jusqu'à ce qu'il attaque. Et une fois qu'il a attaqué, ben c'est plus intéressant. Voilà, c'était court, c'était concis. Kevin, il t'écoute.
Oui, alors moi je suis pas du tout d'accord. Déjà, on parle d'une domination sur une saison. Rappelons-nous que, comme je crois que Fred l'a dit tout à l'heure, il n'a pas gagné le Tour de France 2023. Il avait perdu d'ailleurs les deux derniers. C'est pas vrai de dire que quand il part, il est jamais rattrapé. C'est vrai sur la fin de saison parce que je pense que tout le monde est cramé et que lui avait clairement calé un pic de forme sur des championnats du monde et sur le Tour de Lombardie. Sa saison est organisée comme ça, ce qui n'est pas le cas d'autres coureurs. Je pense que notamment comme Evenepoel. Et si on se rappelle un peu le Tour de France, il y a des fois où il était à la limite de se brûler les ailes. Quand il attaque dans le Lioran, l'étape du Lioran, on pense qu'il va écraser tout le monde et qu'il va mettre 3 minutes. Et puis en fait, Vingegaard revient dans sa roue, ils finissent tous les deux et on se demande même à un moment donné si Vingegaard va pas le lâcher. Sur le championnat du monde, si les Belges et les Hollandais courent un petit peu mieux, c'est pas impossible qu'ils revoient Pogacar parce qu'il y a un moment où les deux coureurs derrière, je crois qu'il y avait Tom Skuns si je me souviens bien, reprennent également du temps. Donc en fait, il y a toujours un peu de suspense avec Pogacar. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a d'autres coureurs sur les 10-15 dernières années qui avaient cette capacité de créer ces gros écarts, mais qui couraient juste différemment, qui couraient à l'économie, ce qui rendait les courses vraiment ennuyeuses. Et là, pour le coup, on a un coureur qui, oui, quand il a la possibilité, quand il est le plus fort, il le montre, il fait des gros écarts.
Et qui est un peu fou, et justement qui casse les codes.
C'est ça.
Ok.
C'est ça, tout à fait.
Vous pouvez répondre, Julien.
L'histoire des pics de forme, je pense que au Tour de France, tout le monde a, en tout cas les favoris, planifient leur fameux pic de forme à ce moment-là. Il a, même s'il n'a pas écrasé toutes les étapes, il en a gagné quand même 5 ou 6, je sais plus. Il a gagné le Tour de France avec 5 minutes d'avance sur Vingegaard. Si les coureurs ceux qui ont dominé dans le passé qui couraient pas pareil, je pense tout simplement c'est parce qu'ils avaient pas les mêmes moyens physiques que Pogacar. Ils couraient à l'économie.
Courir à l'économie, ça n'existe pas. Un cycliste professionnel, je pense sincèrement que ça.
Non, mais on reprochait aux leaders de se cacher souvent et d'attaquer.
Courir à l'économie. T'as déjà fait du vélo, Kevin? Tu fais du vélo?
Oui, je crois qu'Evin
fait du vélo. Quand je dis courir avec l'économie, peut-être que je vais corriger ce que j'ai, c'est courir avec de la prudence. Qui courait prudemment et qui, par exemple, voilà, qui attendait le dernier col, voire le dernier kilomètre pour attaquer. Et donc, on avait des coureurs prudents, ce que Pogacar n'est pas. Et dans le passé, ça lui a coûté des courses, ça lui a coûté des victoires. Après, je vais mettre un bémol quand même sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui peut faire que ça peut devenir ennuyeux. C'est qu'au début de sa carrière, Pogacar n'avait pas une grosse équipe. Et finalement, le fait que lui soit très fort, mais qu'en face, il y a des équipes plus fortes, du coup, ça a rééquilibré les forces. Le fait que, aujourd'hui, UAE soit certainement, en tout cas sur les grands tours, l'équipe la plus forte, là, ça peut devenir ennuyeux. Et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, arriver sur des systèmes de salary cap, comme en NBA sur le cyclisme, de manière à réguler un petit peu ça et qu'on ait un rapport de force au niveau des équipes, qui permette justement de compenser ces coureurs qui sont un ton au-dessus.
Ben voilà un sujet intéressant. On sera avec Marc Madio la semaine prochaine. Il fera tout le week-end avec nous. Et évidemment, on lui reparlera de Tadej Pogacar. Merci, Kevin, d'avoir été avec nous. Arrivez à vous rejoindre tout de même, que si ça dure trop longtemps, là, ça peut commencer à devenir ennuyeux. Il y avait Jonathan qui nous appelait, mais là, on n'a plus le temps et je suis vraiment désolé, Jonathan, qui voulait en plus, il croit pas, il voulait en plus nous reparler de basket. Et là on a plus le temps, Jonathan, on peut plus parler de basket autant de fois dans cette émission. Merci Fred Weiss d'avoir été avec nous et bravo pour ta contre-attaque. Merci Pascal Duprat, merci Julien Beneteau.
Merci.
Et merci Cyril Linette, retour que l'on apprécie. GG un jour, comme on dit, GG toujours. Merci d'être avec nous dans cette émission. Il est 11h54, merci également à Maxime Abolin, le producteur de cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC et pour les GG. Il faudra juste attendre samedi prochain à partir de 9h, on sera d'ailleurs en direct du salon de l'automobile. On vous embrasse. Salut.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.